Nous allons suivre Jésus dans une seule journée. Nous allons voir ce qui se passe dans la journée de Jésus. Et vous allez découvrir plusieurs rencontres de gens qui ont des besoins très différents et qui vont être en contact avec Jésus. Et à chaque fois, le thème, l'injonction de la foi sera la clé, le centre, l'important. Car Jésus regarde notre foi ce matin. Il voudrait que notre foi ne soit pas stationnaire, mais que notre foi grandisse. Il voudrait que notre foi soit comme cette semence qu'il nous a mise dans notre cœur et que cette semence puisse grandir. Il voudrait que notre foi soit une foi persévérante dans les moments difficiles où on a envie d'abandonner, dans les moments de silence où on a envie de ne plus progresser et de laisser tomber ou d'attendre que ça se passe. Il met notre foi à l'épreuve. Comme vous allez voir dans ces quatre rencontres dont je vais vous parler ce matin, dans ces quatre rencontres, vous allez voir que la foi est une donnée de base que Jésus demande. Peut-être vous allez dire, mais moi, je ne sais pas quel niveau de foi j'ai. Peu importe le niveau de foi, vous allez voir que dans ces quatre rencontres, les gens avaient un niveau de foi différent, mais ils ont tous été exaucés. Quel que soit votre niveau de foi, même si c'est qu'un grain de moutarde que le Saint-Esprit a semé déjà dans votre cœur, sinon vous ne serez même pas ici, eh bien ce grain de foi suffit pour faire bouger quelque chose. La foi, cette confiance inébranlable dans la personne et dans la parole de Jésus, c'est fondamental. Mes amis, ce n'est pas la foi sur une expérience émotionnelle. Vous pouvez, après avoir entendu ces chants et participé dans cette musique, vous avez l'impression peut-être que votre foi est gonflée à bloc. Elle est basée sur ce que vous avez ressenti, mais n'est pas forcément basée sur ce que Dieu dit. Parce que pour connaître, pour avoir la foi, vous devez être en contact avec ce que Jésus dit et ce que la parole dit. Et encore, il ne faut pas seulement la lire, mais il faut encore que le Saint-Esprit vous l'imprime dans votre cœur. La foi, c'est la base, c'est le fondement. Hébreux 11 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Le mot grec pour ferme assurance, c'est hypostasis, c'est quelque chose sur lequel je peux me baser, c'est un fondement, c'est un socle, c'est quelque chose qui tient debout. Ce n'est pas du vent, ce n'est pas quelque chose de vide. L'anglais traduit par substance. La foi, c'est la ferme substance. Notre foi doit avoir de la substance. Elle ne doit pas être vide, basée sur des émotions, des sentiments, ou de temps en temps submergée, ou bien de temps en temps passer la rampe pour acquérir quelque chose. Mais la foi, elle est basée sur un fondement qui est la présence, la personne et la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez être en contact avec cette parole, la lire, la méditer et l'intégrer dans notre vie. L'intégrer et laisser le Saint-Esprit lui donner le temps de l'inscrire sur les tablettes de notre cœur, au fond de nous-mêmes. Si nos émotions et nos sentiments peuvent disparaître, les affirmations bibliques sont éternelles, alléluia. Elles sont éternelles. Elles subsistent pour toujours, car nous sommes fondés sur ce que Dieu dit. Alors, nous allons donc faire cette lecture de Matthieu chapitre 9, et nous allons pas lire tout le chapitre, mais juste les passages qui nous intéressent. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. Dans sa ville, c'est Capernaum, parce que Jésus a sa base à Capernaum. C'est là où il y a Pierre, c'est là où il y a la grande synagogue. Vous pouvez encore visiter cela aujourd'hui au bord du lac Tibériade. Vous pouvez visiter cet endroit où Jésus effectivement était chez lui et très souvent donc il est à Capernaum. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, qui connaissait bien leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Et il se leva et s'en alla chez lui. Nous lisons au verset 18. « Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait, « Si je puis seulement toucher son vêtement et je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Verset 27. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant, « Aie pitié de nous, fils de David. » À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Amen. Quatre situations. La foi qui a été la foi des autres dans l'histoire du paralytique, que Jésus a remarqué. La foi vivante de cet homme qui était chef de la synagogue et que les textes parallèles dans Luc et dans Marc nous disent que c'est Jaïrus, qui avait sa fille qui était mourante et qui est morte, qui est ressuscitée. Eh bien, cette foi était véritablement une déclaration de foi très solide de cet homme, une déclaration publique. Ensuite, il y a la foi de cette femme qui était malade depuis 12 ans et qui avait une foi intérieure, mais très solide et très vivante aussi. Et puis, la foi des deux aveugles qui se sont approchés de Jésus, qui l'ont suivi, et Jésus leur pose la question, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et ils devaient donner une réponse. Je veux croire que ce matin, l'une ou l'autre de ces situations vont pouvoir vous aider, vont pouvoir encourager votre foi dans votre situation personnelle. Je pense qu'il y a des personnes ici qui devraient toute leur vie être reconnaissants parce que certaines personnes les ont portées dans la prière depuis des années, voire depuis leur naissance. Non seulement on vous a porté dans les bras quand vous étiez petit, mais encore aujourd'hui quand vous êtes adulte, mais on pense à vous et on vous porte comme ces amis du paralytique l'ont porté aux pieds de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui sont reconnaissants que d'autres les ont portés? Et c'est à cause de leur foi et de leur prière que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Mes amis, encore une fois, et je l'ai déjà dit des centaines de fois dans ce lieu, je plains ceux qui n'ont jamais d'amis et qui n'ont pas d'église. Mais je suis reconnaissant pour une église qui prie pour les autres. Une église qui s'investit dans l'intercession et vous savez que nous prions tous les jours. Il y a des petits groupes quelque part qui prient. Je vous invite à rejoindre ces groupes car il ne faut pas seulement être porté toute votre vie, mais alors que vous allez vous lever, vous allez passer du côté des brancardiers et vous allez porter d'autres maintenant. Il ne faut pas être des portés toute notre vie, mais il faut devenir des porteurs. Des porteurs et que vous puissiez prendre et vous charger à votre tour. Dans votre foi, que Jésus va admirer et voir que vous soyez de ceux qui portent d'autres. Avant de le remettre sur pied, ce paralytique, Jésus va dire trois choses magnifiques. Prends courage, 1. Mon enfant, 2. Tes péchés sont pardonnés, 3. Prends courage. Cet homme n'a rien fait, n'a rien dit, il est juste porté. Et Jésus s'adresse non pas aux porteurs et disait « Bravo, vous êtes vraiment des gens extra, que vous êtes vaillants, que vous êtes persévérants, que vous êtes vraiment des gens extraordinaires. » Il ne parle pas des porteurs, il s'adresse à cet homme paralysé et lui dit « Prends courage, des bonnes choses vont se passer aujourd'hui. » Mon enfant, ça veut dire « Je te donne une identité, tu n'es pas juste un malade. » Peut-être avec les années qui passaient, le paralytique, il a pris une identité de malade et de faible. Il est comme ça. Mais Jésus lui dit, tu es mon enfant, tu es l'enfant du Père, tu es désiré, tu as une valeur, tu n'es pas juste un cas social, un cas médical, tu es quelqu'un, mon enfant. Écoutez la parole du Saint-Esprit, tu es mon enfant, dit le Père, tu es mon enfant. Et la première chose que le Seigneur Jésus va dire, qui est bien plus important que il faudrait vraiment qu'il marche, il faudrait vraiment qu'il change de situation, qu'il passe de la position horizontale à la position verticale et qu'il devienne un homme qui puisse bouger un peu, qu'il puisse devenir en bonne santé. Avant cela, eh bien, il a besoin que ses péchés soient pardonnés. Avant cela, il faut que son âme soit réconciliée avec Dieu. Car vous pouvez être dans une santé splendide, mais être perdu. Et si vous mourrez ce soir, eh bien, vous serez perdu, vous n'irez pas au ciel avec le Seigneur, mais vous serez en enfer. Mes amis, ça c'est grave. La plus grande catastrophe, c'est ça. C'est pourquoi nos péchés doivent être pardonnés. C'est la première priorité, c'est la priorité des priorités. C'est cela qu'il faut envisager et régler aujourd'hui. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu as entendu, mon enfant, je suis mort pour toi, j'ai donné ma vie pour toi pour que tu vives, pour que tu vives et que tes péchés soient pardonnés et que ta culpabilité soit éloigné, nettoyé, que tu sois léger. Et puis, alors que Jésus a vu leur foi, eh bien, il va s'adresser encore au paralytique. D'abord, il va le défendre, il va se tourner vers les scribes, les pharisiens, parce que vous allez voir que dans chacune de ces situations, quand vous regardez tout le chapitre 9, vous allez voir 4 fois que les gens s'opposent, que les gens le critiquent, que les gens disent il blasphème, il chasse les démons par Belzébul. Pourquoi ? Il n'a pas l'autorité, il n'a pas le droit de pardonner les péchés. Il est en opposition. Vous savez, si vous voulez vous lever dans la foi, vous allez trouver de l'opposition. On va s'opposer dans vos têtes, par des doutes et par toutes sortes de raisonnements, et même par des gens qui vont dire, mais t'es fou de croire ça. Tu fais partie de quel secte pour croire des choses pareilles ? À 4 reprises, il y aura de l'opposition, et Jésus va devoir non seulement régler et guérir ces malades, mais il va, en plus de ça, dans ce ministère solitaire qu'il mène en ce moment, il va devoir se battre sur tous les fronts. Il se bat contre les démons, il se bat contre les maladies, il prend des positions, il guérit, il est en contact avec le Père, mais en même temps, il doit confronter les scribes, les pharisiens et tous ceux qui sont en train de douter de lui et qui s'opposent à lui. Ah donc, cet homme va être regardé par Jésus et Jésus va lui donner maintenant aussi un ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. D'abord, c'est la foi des autres qui compte. Maintenant, c'est son obéissance à lui qui compte. Il n'est pas question de la foi de cet homme, mais il est question d'un ordre de Jésus auquel il faut répondre. Frères et sœurs, il y a des ordres de Dieu clairs. Qu'est-ce que nous en faisons vraiment? Ah, nous les connaissons, ces ordres. Nous savons, mais nous ne le faisons pas. Nous sommes des auditeurs, mais pas des faiseurs. Et cet homme, quand Jésus lui dit « Lève-toi », c'est lui qui devait faire la démarche. Il aurait pu dire « Mais je ne peux pas, je suis là couché, je n'ai pas de force, j'ai plus de muscles, je n'ai plus rien, je ne peux pas me lever. Seigneur, tu vois bien quand même. » Mais frères et sœurs, ce que j'aimerais communiquer ce matin, dans ces 4 situations, il y a 4 réalités. Il y a 4 réalités différentes. Chaque personne a son problème, son défi et sa montagne d'impossibilités. Mais ce que Jésus demande, c'est que nous placions sa parole, qui est la vérité, au-dessus de nos réalités. Cet homme pourrait pu dire, mais Seigneur, tu ne vois pas, tu n'as pas les yeux ouverts. Jésus voit les réalités, mais il est placé au-dessus des réalités, dans un monde de foi, dans le royaume de Dieu, connecté au Père, et lui est habité par la parole du Père. Il sait que cette personne va se lever, peut se lever. Nous devons vivre dans ce monde connecté au Père, dans ce monde de la parole, dans ce monde de foi. Ce n'est pas juste s'accrocher à un nuage où on va tomber par après. C'est juste bâtir sur la substance, hypostasis. La foi, c'est la ferme assurance, c'est le fondement, c'est la substance. Ce n'est pas un nuage, ce n'est pas de la vapeur, ce n'est pas simplement quelque chose qui est virtuel. Non, non, non. La foi, c'est la substance. Et Jésus, il est là et quand il regarde ce paralytique, il est en train de lui transmettre cette foi, rien que par son regard, rien que par sa présence. Vous allez me dire, mais oui, mais ils avaient de la chance, ces gens-là. Ils avaient Jésus en personne devant eux quand même. C'est quand même pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus, je ne le vois pas. Si Jésus était là, moi, je verrais aussi des miracles. Il me regarderait, il me toucherait. Je pourrais le toucher, il se passerait des choses. Mes amis, nous avons littéralement mieux que Jésus en personne. Car Jésus et sa parole, c'est la même chose. Nous avons la parole. Jésus, c'est la parole. La présence de Jésus égale la parole de Jésus. Et cette parole de Jésus, il va nous la transmettre, nous la communiquer, et cette parole va générer la foi au milieu de nous. Et cet homme qui est paralysé, tout à coup, il va faire ce qu'il n'a jamais fait, parce qu'il a la foi. Et ce n'est pas une crispation, il faut dire, mais il faut que je fasse quelque chose, mais quoi? Non, c'est juste une ferme assurance tranquille, une ferme assurance où je suis bâti sur le fondement de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'hypostasis, la substance, il est simplement, il ne regarde pas son corps, il ne regarde pas, il regarde plus ses amis qui l'ont porté, il regarde juste Jésus et il obéit à la parole. Comme ça. Mais c'est pour tout la même chose. Pour le baptême, c'est simplement croire ce que Dieu dit et j'obéis. Pour le parler en langue, c'est pareil, c'est, je crois et j'obéis, je ne me pose pas de questions. Le regard de Jésus me donne suffisamment de foi pour faire le pas que Jésus me demande de faire. Il ne nous demande pas de faire l'impossible. Pour ce qu'il nous demande, il nous donne la foi. Comme ça. Croyez-le, saisissez-le. La deuxième situation, nous sommes devant cet homme, chef de la synagogue. Il est dans une situation extrême et il me dit, ma fille est morte il y a un instant. Alors c'est le chef de la synagogue. Or, si vous regardez un petit peu les textes évangéliques, les textes qui ont rapport avec ce que Jésus fait, parce que sa base étant à Capernaum, eh bien, il a déjà fait plein de choses à Capernaum. Le ciel est ouvert à Capernaum. C'est vraiment un endroit où il se passe beaucoup de miracles, tandis qu'à Jérusalem, il se passe beaucoup moins de choses parce que la confrontation religieuse est beaucoup plus forte. Mais dans le nord, dans la Galilée, eh bien, Jésus est à Capernaum et cet homme a déjà vu dans sa propre synagogue des choses se passer. Lorsque vous lisez l'homme à la main sèche, il y avait la femme courbée, il y avait différentes choses qui se sont déjà passées dans la synagogue, toujours à Capernaum. Mais pourquoi a-t-il donc attendu si longtemps? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu plus tôt en disant « Ma fille est malade, Jésus vient ». Pourquoi est-ce qu'il a hésité comme ça? Eh bien, encore une fois, cette guerre spirituelle. Parce que les scribes étaient là et eux ne croyaient pas en Jésus. Jésus était vraiment une menace pour leur « ministère », entre guillemets. Donc, ce chef de synagogue était un peu entre le marteau et l'enclume, entre Jésus. Il croyait en Jésus, mais en même temps, il ne devait pas froisser cet establishment religieux qui était là, et qui était comme un poids d'incrédulité. Il était là entre les uns. Si je crois en Jésus, je vais les avoir contre moi. Je vais perdre mon poste, peut-être même. Je vais être licencié, prendre quelqu'un d'autre. Et donc, il hésite et il attend. Mais à un moment donné, arrive le moment où il se positionne. Il se positionne. Frères et sœurs, peut-être que vous avez hésité longtemps et vous avez dit, mais je ne sais plus ce qu'il faut croire. C'est ceci, c'est cela, c'est autre chose. Je ne sais plus ce que je dois croire. Qui a raison? Et au fond de vous, vous savez que c'est Jésus qui a raison. Au fond de vous, vous savez que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et cet homme, finalement, vient dans le devant de la scène, tout chef de synagogue, très connu par tous. Et il a une foi solide, forte, il dit, Seigneur, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Donc, il croit carrément que Jésus est capable de ressusciter un mort. Il a une foi solide. Et en même temps, il est encouragé par ce qui suit, parce qu'en cours de route, vous savez que cette femme arrive, tout le cortège qui est en déplacement s'arrête où cette femme touche Jésus et j'en parlerai dans quelques instants, et la femme est guérie et cela encourage encore une fois la foi de Jaïrus. La mauvaise nouvelle va arriver, c'est dans Luc que c'est marqué plus en détail. Le convoi vient en sens inverse annoncer la mauvaise nouvelle, ta fille est morte. Donc au départ, elle était mourante, mais maintenant elle est vraiment morte. Et Jésus va prendre la parole lui-même et va lui dire simplement, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Luc 8, 49. Et cet homme, dans cette foi d'abord hésitante, il mesure ce que ça coûte vraiment de croire en Jésus, comme je vous l'ai dit. Il avait une position publique, il avait un ministère public et prendre position pour Jésus allait peut-être lui coûter beaucoup. Mais il se positionne clairement et il se prosterne devant Jésus. Ça veut dire eh bien, il reconnaît en Jésus le Messie qui peut toutes choses. Le Messie qui devait venir en Israël et qui peut toutes choses. Lui qui va ouvrir les yeux des aveugles, lui qui va faire parler le muet, qui va guérir le paralytique et qui va ressusciter les morts, selon Ésaïe 35 et d'autres textes encore. Et dans cette proclamation de la foi, cette déclaration de foi publique, eh bien, j'aimerais encourager ce matin à l'exemple de Jaïrus. Peut-être que vous avez cru de tout votre cœur, vous avez pris votre courage à deux mains pour vous positionner enfin. Puis arrive la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que votre foi a été boostée à fond. Puis après, vous êtes de nouveau découragé parce que vous avez tellement prié, mais le résultat est pire après. Il y en a déjà qui ont vécu ça. Le résultat est pire. Ça ne s'est pas arrangé du tout. Au contraire, ça s'est aggravé. La situation s'est péjorée complètement. Elle est devenue gravissime et carrément, la souffrance est à ce point intenable que vous dites, « Mais Seigneur, je ne peux plus en avant, c'est trop, trop, c'est trop, trop, c'est trop. » Et le Seigneur Jésus va lui dire encore, sans qu'il ait besoin de dire un mot, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Et vous voyez, Jésus est vraiment dans ce monde de la foi, dans ce royaume de Dieu, il vit là-dedans, il est sur terre, entouré d'opposition. Et Jésus est là, connecté au Père. Il est sollicité de toutes parts. N'importe qui d'entre nous aurait été stressé à fond. On aurait été stressé comme je ne sais quoi. Que faire, que dire? Et nous aurions dû, sortir nos agendas, nous sortir, faire quelque chose, trouver des solutions, prendre des rendez-vous. Jésus, il est connecté là, dans cette foule qui l'entoure, cette journée qui commence tôt le matin, qui se termine tard au soir. Et il est là, connecté dans le royaume de Dieu, connecté à la foi de son Père. Et son Père lui dit, cet enfant, elle dort, point. Point, c'est tout. Cet enfant dort. Et Jésus va répéter la parole du Père. Bon, le Père, Jésus fait ce que... il voit faire au Père. Jean chapitre 5 nous le dit. Et Jésus ne regarde pas les circonstances, il regarde ce que dit le Père. L'enfant dort. Et cet homme doit s'accrocher à cette parole. Il rentre, ils sont loin de la foule, il rentre dans la chambre et il prend la main de l'enfant et il la ressuscite comme ça. Si vous êtes découragé, vous avez prié, vous vous êtes positionné dans votre foi, vous avez tout investi dans la prière et dans votre foi, et puis arrivent les mauvaises nouvelles. Jésus dit, ne crains pas, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Saisissez encore la parole de Jésus. Jésus a une parole dans votre situation. Comme il avait une parole pour la situation de Jaïrus, cet enfant dormait, c'est ce qu'il a entendu de la part du Père. Écoutez ce que Dieu dit dans votre situation. Peut-être qu'il ne faut pas foncer et aller vraiment dans votre pensée, votre idée. Ne vous entêtez pas, mais écoutez la parole du Seigneur. C'est difficile quand on est pressé de toutes parts, quand les minutes s'échelonnent et que les choses s'aggravent au fur et à mesure. C'est difficile de s'arrêter calmement pour recevoir une parole, n'est-ce pas vrai? C'est pas facile de se dégager dans notre tête. Nous savons que ça va se passer comme ça, il faut que ça se passe comme ça, et les versets bibliques c'est ça, les textes sont ça, donc on prie. Frères et sœurs, il y a des paroles de Jésus qui doivent être reçues dans des situations spéciales, même dramatiques, même dramatiques. Y a-t-il une situation dramatique ici au milieu de nous qui aurait besoin d'une parole? Frères et sœurs, dans l'Église, il peut y avoir une parole spéciale pour vous. Il y a eu des paroles de connaissance qui sont données de temps en temps et j'aimerais qu'elles soient courantes et régulières, qui sont la parole de Dieu pour votre situation. Mais vous pouvez aussi la trouver vous-même en lisant tranquillement cette Bible. Lisez-la un peu plus et soyez dans la paix en la lisant pour recevoir la parole dans votre situation. Oh, combien souvent j'ai demandé, Seigneur, donne-moi une parole dans ma situation. Et quand je ne l'ai pas reçue, frères et sœurs, écoutez bien, tant que je ne l'ai pas reçue, je reste tranquille, blotti aux pieds du Seigneur. Je ne bouge pas si j'entends rien de spécial. Je fais ce qu'il y a à faire. Je ne prends pas un embranchement, je ne prends pas un carrefour, une autre route. Je continue à me tenir tranquille aux pieds du Seigneur dans l'attente jusqu'à ce qu'il parle. Comme Habacuc était sur sa tour et il attendait que la parole vienne. Il attendait, jour après jour, il attendait. Il était en communion, mais il devait attendre que quelque chose de spécial, de précis, lui soit communiqué. Et quand quelque chose de précis vous est donné, la paix tombe sur vous. Elle tombe sur vous, elle vous envahit. C'est ça. Et là, vous priez Et là, vous êtes de nouveau sur cette base, sur cette hypostasis, sur cette substance de la foi qui vous porte. Ce n'est pas vous qui portez la foi. Ce n'est pas vous qui portez votre foi. C'est la foi qui vous porte. Troisième situation, c'est cette femme malade depuis 12 ans. Et ce que j'aime dans ce texte, il est dit que, verset 21, elle se disait à elle-même. Vous connaissez des gens qui parlent à eux-mêmes, hein? Avant, on disait des gens qui parlent à eux-mêmes, sauf... Il a perdu la tête, hein? Il raconte tout seul dans sa chambre, sur la route, il est sur le trottoir, il parle à lui-même, il dit, c'est une personne dérangée. Vous savez, aujourd'hui, je rencontre plein de gens qui parlent à eux-mêmes, mais ils sont pas dérangés, ils sont en train de téléphoner. Ils parlent à eux-mêmes, ils parlent, ils sont en train de téléphoner, bon, alors... Mais ici, il s'agit d'autre chose. Cette femme parle à elle-même. Il faut que tu parles à ton âme. Il faut que tu parles à toi-même et que tu donnes la foi et le courage à toi-même. Elle se disait en elle-même, elle a une foi privée, personnelle, mais très solide, très solide. Ce n'est pas une foi publique déclarée comme cela. Sa situation est très compliquée. Elle a aussi tant prié, en vain. Elle aurait pu se dire en elle-même, mais il n'y a pas de bon Dieu, ce n'est pas possible. Avec tout ce que je vis, j'ai tellement prié. Pourquoi ça tombe sur moi ? J'ai tout fait juste, j'ai respecté les commandements, j'ai été à la synagogue, j'ai été au temple, j'ai fait ce que la parole de Dieu demande, et puis je suis malade, je ne suis pas guéri. Seigneur, je me suis tenu éloigné du péché et de mauvaises habitudes. Je ne mérite pas ça, je suis une pauvre victime. Elle aurait pu se dire ça à elle-même. Elle aurait pu dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça tombe sur moi. Mais elle se dit à elle-même, je refuse de me révolter contre Dieu. Elle se dit à elle-même, je refuse de me prendre victime, de me plaindre sans cesse. Je refuse de lâcher la main de Dieu malgré que je n'ai pas de réponse. Je refuse d'abandonner ma foi précieuse, plus précieuse que l'or périssable. Je ne me laisserai pas aller malgré ma maladie et ma faiblesse. Je me battrai jusqu'au bout. C'est ce qu'elle se dit en elle-même. Et elle se dit dans tout ça, si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Sa foi était vivante, mais c'était une foi très personnelle, très intérieure. Et voilà qu'elle est dans la foule et elle dit, mais c'est peine perdue, j'ai pas de force, je peux pas jouer des coudes, le bouchon est trop épais, les gens sont compacts et tout le monde veut voir Jésus, toucher Jésus, profiter de Jésus. Moi, je n'ai pas de force. Et elle essaye, elle s'accroche. Elle dit d'une manière ou d'une autre, et puis par bonheur, Jésus est tout près et elle étend sa main, elle touche quelque chose de Jésus. Elle est guérie. Ce matin, toucher quelque chose de Jésus, quelque chose. Même si c'est qu'une miette de Jésus, ça suffira pour vous guérir. La miette de Jésus suffit pour nous remettre d'aplomb. Car Jésus voit la foi de cette personne. Et encore une fois, regardez un petit peu ce que Jésus dit au verset 22. Comme pour le paralytique, prends courage. Alléluia. Première parole, comme pour le paralytique, prends courage. Alors qu'il dit au paralytique, mon enfant, ici il dit, ma fille. Ma fille, tu n'es pas un cas. Ma fille, tu n'es pas une impure. Car une femme avec perte de sang, c'était une femme impure en Israël. Ma fille, tu n'es pas oubliée de ton Père céleste. Tu es mon enfant et tu comptes. Et dans la foule où je suis pressé de toutes parts, j'ai entendu le Père qui dit, il y a quelqu'un qui va te toucher maintenant. Et Jésus s'arrête à l'instant. Quelqu'un m'a touché, dira-t-il. Jésus est connecté au Père. Il entend la voix du Père. Tout ce que le Père fait, il le fait aussi. Et ainsi, une force va sortir de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Donc Jésus va relever la foi, encore une fois, de cette personne. Et je termine par le quatrième. Nous avons là donc les deux aveugles qui suivent Jésus. Jésus va guérir plusieurs aveugles, pas mal d'aveugles par exemple, et chaque fois ils vont vivre des choses différentes. Jésus ne guérit jamais deux fois de la même manière, l'avez-vous remarqué ? Jésus va toucher ici les yeux. Une autre fois, il va mettre sa salive sur les yeux, Marc 8, et guérir Bartimée par la parole, Marc 10. Il délivre un aveugle d'un esprit mauvais, Matthieu 12, 22. Il met de la boue sur les yeux, dans Jean 9, et lui demande de se laver. Chaque fois, c'est différent. Et Jésus, malgré la bonne prière de ces deux aveugles, « Aie pitié de nous !» Fils de David, ça veut dire qu'ils reconnaissent en Jésus le Messie. Ils pensent à Ésaïe 35 ou encore un autre texte dans Ésaïe 29 et 25 où Jésus va, le Messie va ouvrir les aveugles. Et ils connaissent ces textes. Et ils savent, tout en étant aveugles, que Jésus qu'ils entendent passer est capable de faire, selon les prophéties d'Ésaïe. Ils croient que Jésus est vraiment le Messie. Ils font une bonne prière, mais Jésus continue sa route. C'est bien marqué. Ils sont en train de crier, mais Jésus continue sa route. Vous imaginez, Jésus demande à ces deux aveugles qui sont en train de tâtonner partout, ils doivent encore faire l'effort de le suivre jusqu'à la maison. Et c'est dans la maison qu'ils vont être guéris. C'est en privé qu'ils vont être guéris. Pas en public, c'est pas en spectacle, c'est en privé. Même si tu ne vois pas clair aujourd'hui, continue à faire une bonne prière, continue à t'accrocher, continue à suivre Jésus. Il n'a pas dit son dernier mot. Suis-le quand même, même si tu as l'impression, je ne sais pas où il est. Suis-le quand même. Tu peux encore le suivre jusque dans un endroit où il veut encore te parler personnellement. Et Jésus va demander à ces deux aveugles qui reconnaissent la messianité de Jésus. Écoutez les deux aveugles qui sont en train de dire « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus les laisse parler. Hein? Ils sont entourés d'une foule qui ne croit pas. « Jésus, fils de David !» Encore. « Jésus, fils de David !» Et c'est eux qui font le programme d'évangélisation. C'est eux qui évangélisent tout le reste. Jésus ne dit pas « Non, taisez-vous, c'est faux, c'est faux !» Non, non, c'est juste. Jésus ne dit pas « Allez-y, c'est bien !» Mais c'est la parole de ces deux aveugles qui ne sont pas guéris, qui sont en train d'évangéliser tout le reste de la foule, et Jésus les laisse faire ce travail. C'est super. Si quelqu'un ce matin est aveugle, avez-vous remarqué qu'ils sont deux aveugles? Avez-vous remarqué qu'ils sont solidaires? Qu'ils sont en train de dire une et même parole? Ils sont un, ils disent la même chose. Jésus les touche en même temps. Tous les deux s'approchent de Jésus. Jésus leur demande à l'ensemble des deux, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils répondent unanimement « Oui, Jésus les touche tous les deux, qu'il vous soit fait selon votre foi. » Ils sont ensemble, ça c'est l'unité. L'unité des gens qui vient demander quelque chose à Jésus et ils reçoivent ensemble la même réponse. Ils sont guéris tous les deux dans l'unité, dans cette solidarité merveilleuse qu'ils sont en train de vivre ensemble. Alléluia. Croyez-vous que je puisse faire cela? Donc Jésus demande que tu te positionnes. La femme n'avait pas besoin de ça. Jésus a vu sa foi intérieure. Elle sait ce qu'elle a vécu. Il sait sa persévérance. Ici, Jésus demande, croyez-vous que je puisse faire cela? Bien sûr qu'il le voulait, il le savait déjà, mais il fallait que ça sorte de leur bouche. Il faut que tu dises oui. Il faut que tu dises oui, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Et je sais que tu veux le faire. Alors, on termine. Quatre situations en une seule journée. Quatre fois, la confiance, la foi est nécessaire. Jésus la demande, Jésus la voit, Jésus la remarque, Jésus la fait grandir, Jésus la teste, la foi. Ce matin, quelqu'un a besoin, comme ce paralytique, de se lever. Quelqu'un a besoin de ne pas se décourager face aux mauvaises nouvelles, croire encore. Quelqu'un a besoin de déclarer sa foi comme ses aveugles. Quelqu'un a besoin, comme Jaïrus, de continuer à croire malgré, je viens de le dire, malgré ses découragements. Quelqu'un a besoin de retrouver son enfant comme cet homme. Quelqu'un a besoin de voir. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons aujourd'hui placer les vérités de la parole de Dieu au-dessus de nos réalités. Frères et sœurs, nous avons tous une réalité. Tous. Ne dites pas, moi j'ai aucun problème, je suis au-dessus de tout. Non, nous avons tous des réalités humaines qui sont contraignantes, difficiles, éprouvantes, dans toutes sortes de domaines. Nous sommes tous dans des réalités qui éprouvent notre foi. Et nous allons ce matin nous placer en Jésus qui est dans la vérité. Et cette parole va être donnée pour que chacun soit exaucé dans sa prière. Amen.